le temps d'une chanson. Un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Bonjour, il est temps d'égrener le temps avec les plus belles chansons de toutes les époques. Édouard Daladier est nommé président du Conseil en janvier 1933, formant un gouvernement principalement composé de membres du Parti radical. Ce gouvernement fait face à des défis économiques et sociaux croissants. Et puis, c'est l'affaire Stavisky. Cette affaire de scandale financier éclate en France, provoquant une crise politique et une perte de confiance envers le gouvernement. Elle est marquée par des manifestations et des tensions sociales.
Devant la cour d'assises s'ouvrent les débats de l'affaire Stavisky. Le jury entendra au cours du procès 20 inculpés, 250 témoins, 50 avocats. On se souvient que le scandale éclata à la suite de la découverte de faux bons du Crédit Municipal de Bayonne. Au début de l'instruction judiciaire, des perquisitions furent opérées au siège des nombreuses sociétés créées par le grand escroc. Elles amenèrent, entre autres, l'arrestation de Hayot, de Tissier, directeur du Crédit Municipal de Bayonne, qui choisit comme défenseur maître Jean-Charles Legrand, de Gara, député maire de Bayonne, de Gaston Bonnor, député de Paris, d'Arlette Stavisky. Après la mort d'Alexandre Stavisky, qui s'était réfugié à Chamonix, l'action de la justice était éteinte en ce qui le concernait. Voici les fiches anthropométriques du principal coupable. Seuls, ses complices auront à répondre de leur participation à ces criminelles entreprises.
En Allemagne, Adolf Hitler est nommé chancelier, ce qui entraîne des changements politiques majeurs en Europe. La montée du nazisme a des répercussions sur la France, notamment en termes de sécurité et de politique étrangère.
Dès leur arrivée au pouvoir, en janvier 1933, les nazis ont voulu mettre en ordre l'image que le monde avait d'eux. Les villes comme les rues sont devenues des décors de défilés et de rituels, joués et rejoués. Un spectacle permanent, durant lequel les nazis célébraient une communauté du peuple, imaginaire, basée sur la suprématie d'une race, aryenne, blanche et non juive. Parmi la foule des spectateurs, il y avait des centaines de journalistes étrangers qui ont couvert la naissance de ce nouveau régime. Si certains d'entre eux ont accepté les règles comme les secrets des nouveaux maîtres de l'Allemagne, d'autres ont fait le choix de raconter le hors-champ de la dictature, au risque d'être reconduits à la frontière, comme ce journaliste britannique.
We're very glad to welcome you back from Munich jail.
Well, thanks very much.
And we're very glad that you've maintained the proud traditions of British journalism in very difficult conditions.
Well, thanks very much. That's all I've tried to do.
Presque un siècle plus tard, que nous apprennent ces articles lus et publiés à l'aube du Troisième Reich? Que savait-on de la vie des Allemands, partisans comme ennemis du régime? Qu'est-ce qui a été dit et caché des premiers mensonges et crimes d'Hitler? Avant la guerre, avant la catastrophe. février 1933. Les partisans nazis se retrouvent une nouvelle fois au Sportpalast de Berlin. Dès sa nomination à la chancellerie, leur chef, Adolf Hitler, a obtenu du président Hindenburg la dissolution du Parlement. Mais à quelques jours du scrutin, en pleine nuit, le Reichstag, symbole de la République de Weimar, sombre dans les flammes. Dès l'aube, les journalistes étrangers sur place transmettent leurs articles par téléphone à leur rédaction. Parmi eux, le correspondant permanent du Chicago Daily News, l'Américain Edgar Ansel Maurer.
28 février 1933. Le Reichstag allemand a été ravagé par les flammes la nuit dernière. On prétend que l'incendie serait l'œuvre d'un incendiaire néerlandais, Marinus van der Leube, membre du Parti communiste. On suppose qu'il aurait réussi à se faufiler ou aurait été introduit par des amis du parti dans le bâtiment du Reichstag, qui est très soigneusement surveillé. Le chancelier Adolf Hitler, le vice-chancelier Franz von Papen et le ministre Hermann Göring sont personnellement arrivés sur les lieux du bâtiment en flammes en un temps record. Alors que des communistes individuels exprimaient leur totale incrédulité quant au fait que leur parti puisse avoir eu quelque chose à voir avec un incendie criminel, le gouvernement a agi avec une énergie inattendue.
Cet incendie du Reichstag va donner le prétexte aux nazis de faire tomber la chape de plomb de la dictature. De quelle manière ? Tout simplement le lendemain, le 28 février 1933, le président du Reich, poussé par son chancelier Hitler, va signer une ordonnance sur la protection de l'État et du peuple allemand. Cette ordonnance, elle abroge un nombre considérable de libertés individuelles, la liberté de réunion, la liberté de la presse. Elle autorise l'État à non seulement mettre en détention les gens, mais à faire des fouilles chez eux, etc.
Pendant les 100 premiers jours, mais on peut l'élargir aussi à toute l'année 1933, le régime nazi va vraiment cibler les opposants politiques et semer la terreur. La répression contre les communistes, les syndicalistes, les socialistes, allemands non-juifs ou allemands juifs, sera féroce. Et portée notamment par les paramilitaires SA, qui là vont vraiment passer à des méthodes de torture, à des incarcérations sans fondement juridique.
Le Chaland qui passe est une chanson emblématique interprétée par Lise Gotti qui a connu un grand succès dans les années 1930, notamment grâce à son adaptation française de la chanson italienne Par l'ami d'amore.
La nuit s'est faite, la berge s'est sentie se faire. Un bal musette, une auberge ouvre leurs yeux pères. Le chaland glisse sans trêve sur l'eau de Satin. Où s'en va-t-il, vers quel rêve, vers quel incertain du destin? Sur mon chaland, sautant d'inquiétude, l'amour peut-être s'est embarqué. Aimons-nous ce soir sans songer à ce que demain peut changer. On file de long, loin de serment. Ta bouche est triste et je pense à ces fruits mûris, loin du soleil qui dispense leur chaud coloris. Mais sous ma lèvre enfiévrée par l'onde et le vent, je veux la voir empourprée comme au jour levant.
La chanson a été adaptée en français par André de Badet et est basée sur la mélodie de Cesare Andrea Bixio. Elle a été chantée pour la première fois par Vittorio De Sica dans le film « Les hommes qu'elle mufle » en 1932. Interprétée par Lise Gotti, la chanson a été enregistrée en 1933 et a rapidement gagné en popularité. En 1934, le film « L'Atalante » de Jean Vigo a été renommé « Le chaland qui passe » pour capitaliser sur le succès de la chanson. Les paroles de Le Chaland qui passe évoquent des thèmes de nostalgie et d'amour avec des images poétiques de la vie sur l'eau. La chanson parle de l'errance et des rêves et elle invite à vivre l'instant présent sans se soucier de l'avenir. Lise Gotti n'est pas la seule à avoir interprété cette chanson. D'autres artistes tels que Tino Rossi et Juliette Gréco ont également repris Le Chaland qui passe, témoignant de son impact durable sur la culture musicale française. Le Chaland qui passe est l'adaptation en français par André de Badet de la chanson italienne Par l'ami d'Amor, on l'a dit, de Cesare Andrea Bixio et Ennio Neri, chantée pour la première fois par Vittorio De Sica dans le film Les hommes qu'elle mufle en 1932. Avec le texte français qui ne traduit pas la chanson italienne, la chanson interprétée par Lise Gotti obtient un grand succès en 1933. En 1934, les distributeurs du film « L'Atalante » de Jean Vigo décident de renommer le film « Le Chaland qui passe » afin de profiter du succès de la chanson, le film étant par la suite retitré « L'Atalante ». 1986. En janvier, c'est l'entrée en vigueur de la loi Littoral. Le 14 janvier, un accident d'hélicoptère endeuille le rallye Paris-Dakar au Mali. Il y a 5 morts, dont Daniel Balavoine et Thierry Sabine.
Le Paris-Dakar en deuil, Thierry Sabine, Daniel Balavoine et 3 autres personnes sont mortes dans un accident d'hélicoptère. Moscou marque le coup avant la reprise des négociations de Genève. Gorbatchev propose un plan de désarmement nucléaire sur 15 ans. Hidalgo dit oui à Bernard Tapie pour l'OM. Il n'y a plus qu'à signer un contrat avec le club marseillais. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour eux, ce devait être la fête, l'aventure mécanique dans le désert, mais ce fut en définitive le bout de la piste. Thierry Sabine, Daniel Balavoine, la journaliste Nathalie Audan, un pilote et un technicien radio sont morts la nuit dernière au Mali. Leur hélicoptère a percuté une dune, il s'est désintégré. Le Paris-Dakar, déjà entaché par de multiples accidents, vient ainsi de tourner au drame. Voici tout de suite le reportage de nos envoyés spéciaux qui suivent ce qui devait être, au départ, une aventure pleine de promesses.
Il y avait à bord Thierry Sabine, Jean-Paul Le Fur, le radio, François-Xavier Bagnou, le pilote, Daniel Balavoine et Nathalie Audan du journal du dimanche. Et tous les 5 sont morts.
Voici les dernières images de Thierry Sabine aux commandes de son hélicoptère. À sa gauche, le pilote François-Xavier Bagnou. 4 heures avant l'accident, Sabine défendait son rallye.
Un Dakar qui grandit vers l'exceptionnel. Le drame, lui, n'étant malheureusement pas exceptionnel, et il faut cesser de se passer du drame. Surtout qu'en plus de ça, le rallye deux fois, une première fois à cause d'un alcoolique, et il faut quand même le souligner et ne pas l'oublier, il ne faut quand même pas oublier de le dire, ce n'est pas le Dakar qui a frappé, mais plutôt la fatalité au travers d'un alcoolique. Je crois que c'est un mal de chez nous, ça. En tout cas, ici, on n'a pas de risque de ce côté-là. Et le deuxième drame, malheureusement, il s'est déroulé sur une étape de liaison, sur du goudron, et pour des raisons inconnues.
Daniel Balavoine, cette fois, il ne courait pas le Paris-Dakar, il s'était joint à l'opération Paris du Cœur, une distribution de pompes à eau dans le désert. Balavoine avait demandé à nos reporters de ne pas lui faire de promotion sur cette initiative, mais d'en parler simplement, afin que cela soit utile.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
En 1986, toujours, c'est le couplage sur le réseau EDF de Superphénix à Creys-Malville. En janvier, il y a une signature de la plateforme gouvernementale entre l'UDF et le RPR par Jean-Luc Anouilh et Jacques Chirac. Le 20 janvier 1986, Margaret Thatcher et François Mitterrand annoncent à Lille la construction du tunnel sous la Manche. En février, c'est une série d'attentats à Paris revendiqués par le CSPPA, branche du Hezbollah pro-iranien. Il y a des bombes à la galerie Claridge sur les Champs-Élysées le 3 février, à la librairie Giberjeune, quai Saint-Michel, le 4 février, et à la FNAC du Forum des Halles le 5 février.
Renfort de sécurité après la série d'attentats à Paris, enquête vers le Proche-Orient et préoccupations politiques. Attentat à Madrid, un vice-amiral espagnol parmi les deux morts, une action attribuée à l'ETA. Naître en 86, deuxième partie de l'enquête de Martina Larraigno et Pascal Stelletta, ce soir les grossesses à risque, l'histoire d'une femme ayant subi une greffe rénale. L'autosportif, une nouvelle grille, une feuille de plus pour jouer chez soi. Bonsoir. Paris est placé sous contrôle policier très strict. La sécurité est renforcée, annoncée par le ministre Pierre Joxe au cours de la nuit dernière, mobilise environ 2800 policiers. L'attentat hier au magasin de la FNAC au Forum des Halles a fait 9 blessés, dont 6 graves. Un jeune homme de 27 ans a dû être amputé de la jambe gauche. C'était le 4e attentat depuis le début de la semaine. Ce matin, un conseil spécial sur la sécurité s'est tenu à l'hôtel Matignon du Premier ministre. La vigilance des forces de l'ordre devant être à proportion du nombre de personnes en partant ce soir pour les vacances de février. Les renforts sont donc tout particulièrement importants dans les gares et les aéroports. Reportage de François Cornet, Patrice Pellet et Gilles Deblaire.
Quartier des Halles, premier arrondissement de Paris, ce matin. Les consignes aux forces de police sont claires, vigilance accrue dans les points sensibles, action préventive et dissuasive d'envergure.
Il faut être encore plus performant si on avait une nouvelle difficulté.
Objectif, combattre la psychose des Parisiens et démontrer par l'importance des moyens mis en œuvre la détermination des pouvoirs publics dans la contre-offensive. Mais quelle action réellement concrète peut-on mettre en œuvre face au terrorisme aveugle qui se joue trop facilement des mailles du filet? Tellement est facile la pose ou l'abandon dans ces lieux si fréquentés du public d'un engin explosif. Que faire sinon cela? Se montrer et dissuader autant que possible. Le parquet de Paris a donné l'autorisation aux policiers de procéder à des contrôles d'identité et à fouiller les hommes, les sacs et les paquets suspects.
Première réaction que tout le monde doit avoir. Procéder à la psychose. Ça, je pense que c'est une attitude civique, morale et intellectuelle que tout le monde doit avoir. Évidemment, nous faisons le maximum pour aider en cas de difficulté et pour pousser le plus loin possible la prévention et l'action.
Malgré l'apport de la surveillance électronique des points sensibles, la riposte n'est pas simple, surtout lorsque 80 fausses alertes, comme ce fut le cas aujourd'hui à Paris, mobilisent les effectifs. Un exemple cet après-midi au musée Grévin.
Vous recevez souvent ce genre de fausses alertes?
Oui, nous recevons beaucoup de fausses alertes. Et à cet égard, je me permets de m'adresser au public.
Il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas être partout et que nous devons être là où nous sommes nécessaires.
Il y a malheureusement de vraies bombes, comme celle désamorcée quelques heures plus tard, place de l'Odéon, dans le 5e arrondissement, derrière ce kiosque à journaux.
Ah, c'était un vrai colibri.
Oui, un vrai colibri qui était derrière.
La lutte contre ce terrorisme mobilise aujourd'hui donc 2800 policiers, gendarmes et CRS répartis à Paris. Les stations de métro, les gares, où 150 000 voyageurs ont transité aujourd'hui, les aéroports, en cette journée de grand départ, sont particulièrement surveillés. Mais comment savoir où et quand aura lieu, s'il a lieu, le prochain attentat? Le ministre de l'Intérieur a inspecté cet après-midi ce renforcement des dispositifs de sécurité, une visite qui s'est terminée sur les lieux de l'attentat d'hier à la FNAC du Forum des Halles, après un détour à Beaubourg.
Si la France est menacée, il faut mobiliser tous les moyens disponibles pour assurer le maximum de protection dans tous les lieux publics. On ne peut pas le faire dans tous les lieux publics. Dans tous les lieux publics, il y a un risque. Mais il y a des lieux où il y a plus de risques. C'est là où il y a des fortes concentrations, ou des moments où il y a des fortes concentrations.
Cette action dissuasive ne sera pas facile. Combien de temps faudra-t-il maintenir de tels effectifs en état d'alerte pour essayer d'enrayer cette nouvelle vague de terrorisme sans visage?
En 1986, c'est l'année où sont diffusées les chroniques de la haine ordinaire de Pierre Desproges, diffusées sur France Inter. Du 5 au 28 février, l'année 86 est marquée par une vague de froid. En février, toujours, c'est le projet du tunnel sous la Manche qui est paraphé par Margaret Thatcher et François Mitterrand. Une opération est organisée au Tchad, l'opération Épervier, après le franchissement du 16e parallèle par les forces armées de la Libye au nord du Tchad. Cette opération est suivie par un bombardement aérien de l'aéroport de Wadi Doum dans le désert tchadien par des jaguars français partis de Bangui. En février toujours, Robert Badinter remplace Daniel Meyer comme président du Conseil constitutionnel. Et puis, le 20 février 1986, c'est la naissance de la 5, chaîne de télévision généraliste privée.
Avant l'apocalypse, il y eut la genèse. Et si vous étiez là le 20 février 1986, alors vous avez vu ça. Premier générique, première émission.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes très très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur la 5. Merci d'avoir allumé votre téléviseur, merci d'avoir ouvert votre maison et nous l'espérons, votre cœur à la 5. La 5, c'est un choix supplémentaire, un choix qui existe là, maintenant, depuis quelques secondes.
Je suis heureux de déclarer officiellement ouvert la 5.
Bonne chance, la 5.
La 5, ça va être super.
La 5, c'est classieux.
Le 28 février 1986, la presse de la Manche dévoile la livraison de munitions vers l'Iran par Lucher SA, déclenchant l'affaire Lucher. Voyage, voyage est une chanson de la chanteuse Desireless et sortie en 1986 en tant que premier single de son premier album, François.
Thank you.
voyage, voyage.
Cette chanson, écrite par Jean-Michel Riva et Dominique Dubois, était à l'origine destinée à Michel Delpech. Les compositeurs Jean-Michel Riva et Franck Thomas ont écrit également de nombreuses chansons pour Michel Delpech dans les années 70. Mais Michel Delpech, pourtant en pleine traversée du désert, la refuse. Jean-Michel Riva propose alors le titre à Désirless, qui à l'époque était chanteuse du groupe R89 sous son vrai prénom de Claudie. Les paroles de la chanson à double sens parlent des voyages en termes de kilomètres, mais aussi des voyages initiatiques, intérieurs. La chanson est dédiée à Gopala I. Le pseudonyme même de la chanteuse Désirless, trouvé par Jean-Michel Riva, signifie en anglais « sans désir », que la chanteuse explique comme étant, en ce qui la concerne, une façon d'observer le monde avec détachement. Cette émission est maintenant terminée. À bientôt pour d'autres périodes historiques en chanson. Vous pouvez bien sûr retrouver tous les podcasts de l'émission sur le site de Radio Campus Paris.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.